Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. Il y a une chose qu'on peut dire à propos du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, c'est qu'il a le sens du timing, pour parler un bon français, absolument déconnecté. Il a choisi la journée d'hier pour réclamer la fin de toutes les mesures sanitaires, le jour même où, au TVA 18h de Pierre Bruno, Alain Laforêt nous présentait un reportage qui glace le sang sur la situation dans les hôpitaux, aux soins intensifs, des gens intubés dans la plus pure douleur. Ce reportage-là nous glace le sang, et c'est ce jour-là que Éric Duhaime a choisi pour nous dire « Ben non, tout va bien, comment ça se fait qu'il y a autant de mesures sanitaires ?» Ça s'appelle être déconnecté complètement. Quand j'ai vu les déclarations d'Éric Duhaime, j'ai poussé un exaspéré « Ben voyons donc !»
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Au début de la pandémie, c'est le journaliste qui couvre la santé pour le journal La Gazette de Montréal, Aaron Derfel, qui nous a ouvert les yeux sur l'horrible réalité dans le CHSLD. Aaron, encore aujourd'hui, son nom apparaît dans le rapport Castonguay sur la gestion du système de santé. On avait envie de lui parler aujourd'hui pour faire le bilan de la situation au Québec. Aaron, bonjour.
Ah, bonjour, Sophie.
On va parler un petit peu plus tard du rapport Castonguay, mais d'abord, je veux revenir sur toute une séquence sur Twitter que vous avez mise en ligne au cours des dernières heures, qui montre que la situation au Québec est absolument épouvantable quand on se compare à d'autres juridictions, à d'autres pays. Le taux de mortalité au Québec est extrêmement inquiétant, Aaron.
Oui, et ce que j'ai constaté, c'est que le décès au Québec est en train d'accélérer plus vite que d'autres juridictions. Et cette accélération, il me semble que c'est un symptôme de notre système, l'effondrement de notre système à l'heure actuelle.
L'effondrement de notre système, ça, c'est rien pour nous rassurer, Aaron. Donc, parlons vraiment des chiffres en particulier que vous avez colligés. Quand on parle de taux de mortalité pour 1 million de personnes, au Québec, c'est 7 par million de Québécois. Comment ça se compare à d'autres endroits à travers le monde?
Oui, c'est beaucoup plus élevé. Par exemple, en Italie, je pense que c'est 5, quelque chose. Nous sommes, en comparaison avec États-Unis, le taux aux États-Unis est actuellement 4,7. Donc, au Québec, notre vague, la vague maintenant de décès est plus intense qu'en janvier l'année passée. Et le taux de décès, le nombre de décès est en train d'accélérer au Québec et accélérer plus vite qu'aux États-Unis, les autres pays industrialisés et les autres provinces. Alors, je voulais sonner l'alarme qu'il y a quelque chose qui va mal au Québec. Et en même temps, récemment, il y a 2 jours, le gouvernement a dévoilé une guide proposée des soins priorisés, de passer à A+, un soin de qualité A+, vers un B, si on n'avait jamais, je ne sais pas si on avait eu une A+, dans le passé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système est débordé, on manque des effectifs, des ressources, et que le système de la santé est en train de s'effondrer.
Oui, en train de s'effondrer, vous avez tout à fait raison, Aaron. En même temps, quand on regarde ces chiffres-là, et vous dites, vous, que vous vouliez, avec ces chiffres-là, en les colligeant, sonner vraiment une sonnette d'alarme. Donc, quand je regarde ce que vous écrivez, Aaron, qui est vraiment très inquiétant et très perturbant, comment on fait pour concilier ça avec le ton quand même rassurant du gouvernement du Québec qui dit bon, on va ouvrir les écoles, puis on approche d'un plateau, puis on atteint un pic. C'est ce que vous dites et ce que le gouvernement dit, c'est, on a l'impression que c'est pas la même chanson que tout le monde chante.
Tout à fait. Je pense que le gouvernement Legault aimerait rassurer la population. Le gouvernement voulait avoir la panique, peut-être. Il y a aussi la côté politique. On va avoir une élection en octobre. Donc, ça pourrait expliquer l'écart. Mais mon objectif est de mettre la lumière sur la vérité, OK? Et de montrer un vrai portrait de la situation. Donc, j'ai un autre objectif peut-être que le gouvernement à un moment donné.
Oui, c'est-à-dire qu'on comprend que le gouvernement peut nous rassurer, et puis en même temps, quand ils regardent les sondages, ils ont pas non plus envie de continuer à dégringoler dans les sondages. Mais excusez-moi, Aaron, mais le rôle d'un gouvernement, c'est de prendre soin de notre santé. Moi, je préfère paniquer en ayant la vérité que de me faire rassurer en me faisant compter des entourloupettes ou compter des mensonges. Je préfère qu'on me dise la vérité, même si ça doit m'inquiéter.
Et une autre raison pour sonner l'alarme, est-ce qu'il faut demander plus de l'aide du gouvernement fédéral? On a constaté il y a 2 ans à peu près, malheureusement, qu'on a envoyé l'armée canadienne dans les CHSLD. Récemment, oui, il y a des soldats qui donne la vaccination au Québec. Mais peut-être la Croix-Rouge, on a besoin d'autres ressources parce que maintenant le gouvernement appelle aux familles et proches aidants à donner des soins dans les hôpitaux. Alors, c'est vraiment tragique.
Absolument. Aaron, comment vous expliquez? Parce que donc, vous sortez ces chiffres-là en disant 7 pour 1 million, c'est comparé à d'autres juridictions, c'est absolument épouvantable. Et en plus, le taux d'accélération est plus grand ici au Québec qu'il ne l'est dans d'autres juridictions. À part dire le système est en train de s'effondrer au Québec, quelles sont les autres causes qui peuvent expliquer ce taux de mortalité aussi élevé?
Je pense que peut-être le fait que notre population est plus vieille que dans d'autres juridictions, parce que c'est la même chose en Italie, par exemple. Italie a une population plus vieille que
c'est
d'autres
vrai.
Pays en Europe. Et ça, c'est une raison. Le fait que notre système était beaucoup plus fragilisé que d'autres systèmes. Et je dois mentionner que c'est pas la CAQ qui a inventé ce problème, ces défis. On se souvient de la réforme Barrette. Quand
oui.
les libéraux étaient au pouvoir, il y avait des coupures. Donc, le système était fragile avant la pandémie, et puis on était au Québec frappé avec pas une, mais cinq vagues de la COVID-19. Et maintenant, le système ne peut pas rien faire pour absorber une autre vague ou même la cinquième vague. C'est un échec total à l'heure actuelle.
Oui. Aaron, je veux, quand on parle d'échec, puis quand on parle d'un système qui était mal préparé, évidemment, on pense au rapport de la commissaire à la santé qui a rendu donc son rapport final hier, le fameux rapport Castonguay. On est loin d'une commission d'enquête, mais quand même, elle fait un certain nombre de recommandations, Joanne Castonguay. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de son rapport?
Je pense que c'est un rapport bien rédigé, un rapport qui a des bonnes recommandations, mais est-ce que il y a la volonté politique pour vraiment suivre ces recommandations. Peut-être oui maintenant. Une des recommandations ou un des constats que je trouve intéressant, il faut avoir une meilleure indépendance en ce qui concerne le directeur de santé publique. Mm-hmm. On se rappelle que quand le docteur Horacio Aruda était le directeur, souvent des gens ont constaté que peut-être il était trop près de François Legault et pas aussi indépendant qu'il aurait dû être. Et ça, c'est une chose, une leçon qu'on doit tirer pour l'avenir.
Oui. Un des points qui est soulevé par Madame Castonguay, elle fait référence à votre fameux reportage dans la Gazette, donc du mois d'avril 2020. C'est vous, Aaron, hein, qui avez révélé l'ampleur des atrocités, il faut vraiment l'appeler comme ça, qui se sont déroulées au CHSLD. Aaron, et ce que dit Madame Castonguay, c'est qu'elle dit il y avait des indicateurs qui montraient un signal clair et précoce de la propagation rapide de la pandémie en CHSLD au Québec dès la semaine du 22 mars. Donc, il y a des gens au gouvernement qui le savaient le 22 mars, mais c'est seulement le 10 avril quand vous avez publié votre article dans la Gazette que ça a été révélé au grand jour. Donc, quand vous êtes retrouvé cité dans le rapport Castonguay, comment vous avez réagi, Aaron?
Vous venez de m'informer que j'étais encore...
vous le saviez pas?
Oui, non. J'ai pas lu tout le rapport, mais
d'accord.
Je suis un peu surpris et merci pour je suis un peu gêné, mais pour revenir sur l'imputabilité du gouvernement là-dessus. La question qui doit être posée, est-ce que le gouvernement savait de l'ampleur de la situation ou est-ce qu'il y avait une inertie pour bouger, pour passer à l'action? Et je pense que c'était plutôt le deuxième scénario. C'est des fois malheureusement naturel pour pas faire quelque chose immédiatement mais je pense que le gouvernement était au courant de la situation mais a décidé malheureusement de ne pas prendre des choses pour mieux gérer la situation surtout avec la résidence Heron, parce que il faut se rappeler La résidence Heron était le seul CHSLD au Québec qui était mis en tutelle.
Oui.
Le Heron était mis en tutelle le 29 mars. L'article que j'ai écrit était publié le 10 avril. Alors, étant donné que le Heron était le seul CHSLD en tutelle, j'ai du misère à comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas pris au sérieux cette distinction et aller plus vite pour mettre une prise en charge de la situation, non seulement à la résidence Heron, mais d'autres CHSLD.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, à partir de... Donc, ce qu'on comprend avec le rapport Castonguay, dès le 22 mars, il y a des gens au gouvernement qui savaient que la situation était catastrophique en CHSLD. Le 29 mars, le CHSLD Heron est mis en tutelle. Le 10 avril, vous révélez qu'il y a des gens qui sont pas nourris, pas lavés, qui sont dans leurs excréments, des gens qui sont morts dans des conditions absolument terribles. Donc, la question est, comment ça se fait si le gouvernement savait qu'il y avait des situations épouvantable dans les CHSLD, comment ça se fait que rien n'a été fait?
Donc, et puis, le lendemain, le 11 avril, François Legault a tenu une conférence de presse et il a annoncé l'inspection de, je pense, une quarantaine des CHSLD privés après la publication de l'article dans la Gazette. Pourquoi pas avant la publication de l'article de la Gazette?
Excellente question! Excellente question. Si on le savait depuis le 22 mars, et c'est là que ça devient très important, donc d'avoir cette fameuse commission d'enquête que tout le monde réclame. Qu'est-ce que vous pensez parce que hier, donc les gens du CHSLD, Aaron, les propriétaires, les avocats, tout le monde s'est renvoyé la balle en disant oui, mais c'est pas de notre faute. Nous, il y avait une pénurie de main d'œuvre. Il y a les avocats de l'autre côté qui disent les gens, les gestionnaires du CHSLD, Aaron, n'avaient ni l'expérience ni les capacités pour gérer un CHSLD. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui se renvoient la balle en disant « Ben, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. »
Des excuses et encore, c'est nature humaine de ne pas accepter la responsabilité, malheureusement. Et mais je pense que ils avaient une part des raisons parce que on était dans une pandémie sans précédent. Mais je sais que il y avait des inspections qui étaient menées à la résidence Heron avant la pandémie et des inspections qui ont soulevé beaucoup de problèmes, mais des changements n'étaient pas portés. Pourquoi
c'est
pas?
C'est ça. Et voilà. Excellente question, parce qu'en effet, quand il y avait des inspections, on a démontré justement qu'il y avait, avant la pandémie, des gens qui ont passé des semaines sans être lavés. Il y avait un problème de manque de personnel, les soins n'étaient pas appropriés. Comment se fait-il? C'est très fâchant, là, je veux dire, c'est révoltant de se dire qu'il y a des gens qui ont manqué de soins dans une société avancée comme le Québec. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est de la colère? C'est du découragement? Qu'est-ce que vous ressentez?
C'est plutôt une honte de notre part comme société au Québec et à travers le Canada aussi en Ontario, une honte. Mais pour revenir au Québec, il y avait des rapports depuis une vingtaine d'années qui ont soulevé la maltraitance dans nos CHSLD. Et puis, le gouvernement Legault était élu à la suite d'une promesse pour mieux gérer les CHSLD. Et puis, on a constaté la tragédie dans la résidence Heron. Quand est-ce qu'on va apprendre des choses ici? C'est une honte, c'est une tragédie, vraiment.
Et une pensée, bien sûr, Aaron, à chaque fois qu'on parle de ce dossier-là, pour tous les gens, les proches des gens qui sont décédés dans des circonstances absolument atroces, et au CHSLD, Aaron, et dans d'autres endroits, parce que mourir de la COVID, quand on peut pas l'empêcher, c'est une chose, mais se dire que des gens qu'on aime sont décédés dans des conditions atroces et que ça aurait pu être évité, ça, c'est inacceptable dans une société comme dans laquelle on vit. Aaron Derfeld, je rappelle que vous êtes donc reporter émérite à la Gazette, spécialiste en santé. Continuez à nous informer, continuez aussi à tirer la sonnette d'alarme. La situation que vous décrivez en ce moment avec le nombre de morts au Québec, c'est très inquiétant et ce serait important que le gouvernement Legault en prenne acte. Merci beaucoup, Aaron.
Merci, Sophie. Ça m'a fait plaisir.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Décidément, la pandémie a un impact même dans nos émissions de télévision préférées. La grande première de Star Academy a été reportée d'encore une semaine avec toutes les conséquences que ça implique. L'émission Big Brother Célébrité aussi, où plusieurs des participants sont atteints de la COVID. Bref, ça chamboule le quotidien des accros de la télé, dont fait partie ma collègue Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Oui, complètement et très assumé à travers tout ça. Je dois dire, tu sais, que Big Brother Célébrité, l'an passé, j'ai commencé à le regarder parce que ma fille le regardait qui était à la maison, puis j'avais envie de m'asseoir à côté d'elle, puis de regarder ça ensemble. Puis finalement, je suis restée accrochée. J'ai écouté toute la saison et j'avais même hâte que la nouvelle saison recommence parce que je trouve qu'avec ce qu'on vit, ça fait du bien ces moments où on a l'impression qu'on oublie ce qui se passe autour. C'est juste l'instant voilà. D'un moment rentré dans la vie des autres. Et là, tout à coup, boum, la COVID est entrée dans, entre autres, dans Big Brother, parce que c'est déjà en onde, et Eddie King, l'humoriste, on a appris cette semaine qu'il avait la COVID, donc a été retiré immédiatement du loft dans lequel ils sont, dans le studio dans lequel ils sont. Et là, on apprend qu'il y en a 5 autres qui ont testé.
C'est beaucoup, hein?
Hey, c'est énorme dans cette maison-là, parce que il faut comprendre qu'ils vivent tous ensemble. Ils vivent presque, tu sais, il y a comme 3 dortoirs où tout le monde dort là. Et le jeu, c'est de la stratégie. Ils ont des choses à faire ensemble. Ils doivent se parler. Donc, tu dis, OK, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va le voir tantôt à l'émission. On va le voir ce soir à l'émission d'aujourd'hui. Là, ils ont fait comme, ce qu'on comprend, une chambre de COVID-2. La chambre avec les 6 qui ont la COVID. Et suite à les 5, en fait, on ne sait pas trop si Eddie King va revenir. Et les autres sont ailleurs dans la maison. Donc, comment ça va fonctionner? Tu sais, c'est comme si les producteurs doivent être extrêmement créatifs, parce qu'on s'entend que...
C'est un casse-tête.
Exactement, c'est un casse-tête, puis c'est un format, là. Tu sais, il y a une façon de le faire, ce jeu-là. Ça, il y en a partout à travers le monde, donc, mais il n'y en a pas un qui a été fait spécial COVID. Donc,
Mais ce que ça nous dit, Marie-Claude, c'est que, t'imagines, quand on parle d'un virus qui est vraiment contagieux, en tout cas d'un variant qui est extrêmement contagieux, ouais. On sait qu'évidemment, à chaque fois que tu produis une émission de télé, tu prends toutes les précautions, les gens sont testés. Et malgré ça, malgré le fait que ces gens-là soient isolés, qu'il y a eu toutes les mesures sanitaires, tu sais, vérifiées par le CNESST, tout ça, malgré ouais. ça, ouais. il y en a 6. Et moi, ce que ça me dit, c'est, je veux dire, il n'y a aucun endroit qui est protégé. Quand on dit que le virus est contagieux, on ne peut pas en avoir meilleur exemple que des gens qui sont complètement isolés et qui finissent quand même par la pogner, la maudite COVID.
Ils vivent en réclusion complète, là. Et non, c'est dur à comprendre. Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a porté plus longtemps puis ça sortait pas des tests? Tu sais, il y a plusieurs questionnements. C'est pour ça qu'Omicron est traite, hein. Il se camoufle, on dirait, plus facilement, puis il est davantage contagieux. Et là, hier, on apprend, bon, Star Academy, on le sait, samedi soir dernier, les producteurs, le diffuseur ont dû prendre une décision difficile d'annuler le premier gala qui était tant attendu, puis on sait à quel point c'est une émission phare de TVA, une émission importante qui attire beaucoup de monde. Et en plus, il y a une quotidienne sur 4 jours, hein, du lundi au jeudi, qui suit le gala. Et bon, tout était annoncé. Ils savaient qu'il y avait 3 cas de jeunes. Il y avait 3 participants qui avaient la COVID, mais ils avaient trouvé des solutions. Donc, les jeunes chantaient de leur chambre. Et finalement, il y en a eu un 4e. Et là, ça a tout basculé. Et bon, ils ont tout arrêté. Puis là, ils ont dit, ben, en tout cas, on a bon espoir pour dimanche prochain. En bonne gérante d'estrade que je suis.
oui, vas-y.
Ouais, moi, je me disais, mais il me semble que c'est vite l'autre dimanche. Tu sais, je comprends qu'on veut présenter, mais tu sais, moi, je calculais avec les mesures sanitaires, avec le temps d'isolement. Je me disais, bon, OK, mettons qu'il y en a un autre. Tu sais, c'est 10 jours quand même qu'on doit être isolé quand on a les symptômes. Ben des fois, on ne le sait plus, mais en tout cas, j'ai été relayée, c'est encore 10 jours. Fait que là, tu sais, je calculais, mais bon, mes calculs n'auront servi à personne, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu d'autres cas, d'autres personnes, d'autres jeunes qui ont testé positif. Là, ils sont rendus à 10 participants. Parce que je me disais, bon, peut-être qu'ils auraient été créatifs, ils auraient trouvé d'autres solutions, malgré qu'il en manquait quelques-uns. Et tu sais, il ne faut pas oublier que le premier gala de Star Academy, Il y en a 5 de ceux qui sont là, qui sont déjà acceptés à l'Académie, mais les autres jouent leur place. Ils doivent chanter. Après ça, alors c'est fondamental, tu sais. Fait que j'imagine qu'ils veulent être au sommet de leur forme, ces jeunes-là, parce que dans leur vie, ça peut être un tremplin pour la suite. Tu sais, ils jouent beaucoup dans ce premier gala qui devait avoir lieu. Donc, tout ça est reporté au 30 janvier. Moi, j'espère que les jeunes vont bien, parce que, tu sais, je trouve que présentement, ce qu'on oublie, c'est qu'on peut être malade avec Omicron. C'est même pour les enseignants qui disaient, ben, si vous avez Omicron, ben, après la cinquième journée, on va vous demander de au moins faire des Zooms. Mais ça se peut qu'on file pas après cinq jours.
Ben, c'est ça. Parce que l'impact est absolument énorme. Puis, je sais pas si t'as vu hier, aux 18h avec Pierre Bruno, le reportage d'Alain Laforêt où il a donné à des médecins qui travaillent au service intensif des caméras puis qui donc nous ont donné accès à comment ça se passe aux soins intensifs. Ça donne vraiment pas envie d'avoir la COVID. C'est absolument épouvantable. Et quand on parle de Star Academy, écoute, les conséquences absolument énormes. Jean-Philippe Dion était à l'émission La Tour de Patrick Huard et disait, écoute, c'est des millions de dollars qui sont perdus, là, qui sont évaporés parce que c'est une production tellement énorme. Il y a le gala du dimanche, les quotidiennes. Donc, deux semaines de report, c'est absolument énorme. Puis écoute, on a appris quand même au cours des dernières heures l'annulation, en tout cas pour l'instant, du gala Artis. C'est pas rien, là, le gala artiste, on ne peut pas prévoir quand on va pouvoir le faire, parce que l'essence même du gala artiste, c'est de le faire devant le public, parce que c'est le choix du public, mais si tu peux pas avoir de public dans ta salle, ben il y a pas de gala artiste, donc ça fait plein de conséquences pour la télévision, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à avoir une télé normale.
Ben c'est fou hein depuis le temps parce que le gala artiste il y a pas le dernier mais l'avant-dernier il y a eu les nominations, finalement le gala a été reporté a été annulé parce que les gagnants l'ont su à travers l'émission Sucré Salé pendant l'été. Ils recevaient leur trophée pendant l'été. Donc il y a pas eu d'événement en tant que tel de gala. L'an passé le gala a eu lieu mais sans public. Même ceux qui étaient en nomination ne pouvaient même pas être accompagnés au gala. Alors, imagine, c'était des chaises toutes seules. Chaque chaise était à 2 mètres. C'était triste comme...
C'était pas la même ambiance, mettons.
Non, qu'il l'animait, mais... Ah non, c'était pas la même ambiance. Mais tu dis, OK, un an plus tard, on est là. Et là, finalement, 2 ans plus tard... On n'a même pas de date, c'est reporté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ça dure dans le temps. Je veux dire aussi que les règles, c'était légèrement allégé, sous l'accord de la santé publique puis la CNESST, sur les plateaux. Mais tu sais, comme moi, je veux juste dire, la semaine passée, sur mon plateau, j'ai des journalistes qui sont venus pour parler de l'émission et on m'a demandé d'être en onde pour LCN. Donc là, je pensais avoir une petite retouche maquillage, mais non. Parce que j'ai fait l'entrevue avec un N95, un masque N95.
Es-tu sérieuse?
Écoute, j'étais sur mon plateau, la journaliste avait son masque, on était à 2 mètres de distance, et malgré ça, on avait nos masques. Donc, on sent qu'il y a une nervosité, qu'il y a les mesures. Je pensais pas là de faire ça comme ça, mais je me dis, bon, on respecte les règles. Et moi, sur mon plateau, toutes les gens qui sont autour de moi ont un N95 maintenant. Et je sens aussi, Sophie, que les invités, même si nous, on a toujours été à 2 mètres. Ça a toujours été respecté. Il y a quelqu'un qui vient mesurer à chaque fois si on est bien à 2 mètres. Maintenant, les invités ne peuvent pas enlever leur masque tant que l'émission n'est pas commencée, tant qu'il n'y a pas un décompte. Avant, dès qu'ils s'assoyaient, ils pouvaient enlever leur masque. Ce n'est plus le cas. Et je sens aussi que les invités sont plus nerveux.
Ah oui,
on le sent, là. Tu sais qu'il y a quelque chose, là. Ils veulent s'assurer que les mesures soient bien respectées, puis c'est parfait. Et nous, on a fait même le choix que les médecins qui travaillent dans les hôpitaux ne viennent plus sur le plateau, mais on les fait maintenant par Zoom.
Es-tu sérieuse? C'est très important de le mentionner, parce qu'évidemment, s'il y a quelqu'un qu'on veut protéger en ce moment, puis on voudrait pas, les ressources sont tellement peu nombreuses qu'on veut en prendre soin. Donc, quand tu fais des entrevues avec des médecins, c'est forcément en Zoom. Ben écoute, tout ça nous dit à quel point, et heureusement que toutes ces mesures-là sont prises, mais à quel point ce variant-là est contagieux. Puis quand on regarde aussi, Marie-Claude, je pense par exemple District 31, qui est une émission aussi extrêmement populaire, qui ont été obligés de retarder le début des nouveaux tournages parce qu'il y avait eu des éclosions, il y avait des gens de la technique là, qui avaient attrapé la COVID. Tu dis, ben à un moment donné, il va y avoir des émissions qu'on ne pourra pas voir parce que, écoute, quand t'es comédien, à un moment donné, il faut aussi que tu t'approches, puis tu peux pas, on peut pas imaginer le commandant Chiasson mettant avec un N95.
Non, non, mais tu parles de ça quand il y a eu This Is Us, la dernière saison qui a été tournée il y a peut-être 18 mois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Les personnages étaient dans la pandémie, puis eux, ils portaient les masques. C'était vraiment, ils vivaient comme nous avec les mesures. C'était particulier de voir une émission de télé qui était comme nous. Tu sais, c'est comme si on décidait de jouer.
Oh mon Dieu,
comme
je trouverais ça angoissant, angoissant.
Ben
parce qu'écoute, la raison pour laquelle on regarde la télé, c'est justement pour être ailleurs, pour aller dans pas nécessairement dans le rêve, puis dans la fantaisie, puis le fantasme, mais juste se sortir de notre quotidien assez glauque en ce moment. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a autant de détresse. Fait que là, si j'allume la télé puis je vois quelqu'un avec un masque, je peux te le dire, là, je vais changer de poste.
Mais moi, tu vois, je l'ai regardé, mais je me suis questionnée, mais pourquoi, tu sais, je me disais, est-ce que pour eux, c'était plus simple comme ça? Mais tu sais, il y avait quand même des bulles. Quand ils étaient dans leur maison, ils portaient pas les masques, mais dès qu'ils étaient à l'extérieur et la pandémie faisait partie, vraiment, c'est vraiment le fond de cette saison-là. Donc, c'est pour ça, là, quand ça arrive comme ça dans nos quotidiennes, dans nos divertissements, parce que, comme tu le dis, c'est certainement un moment où nos divertissements sont précieux, sont essentiels, surtout que, tu sais, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au théâtre, on peut pas, tu sais, il y a pas, on est devant nos télés. Alors, quand la télé nous le rappelle, ça nous dit à quel point c'est intense, tout ce qu'on est en train de vivre. Et je peux dire aussi que la CNSST et l'Association des réalisateurs, entre autres, insistent vraiment pour que les acteurs aient une troisième dose parce qu'une fois que tu as la troisième dose, il y a certaines règles qui pourront être allégées lors des tournages parce qu'on sait que cette dose-là réduit vraiment considérablement les risques de contracter le virus. Et surtout, on devient aussi moins contagieux. Donc, mais c'est ça. Fait que moi, je trouve ça, en tout cas, je suis rendue que dans mon divertissement, ça en fait partie, mais je peux te dire que j'ai vraiment hâte que Star Academy recommence et j'espère que ceux qui l'ont contracté ne seront pas malades. Tu sais que ils sont quand même isolés depuis le 3 janvier.
Ça fait beaucoup.
Absolument.
Écoute, Marie-Claude, je trouve que c'est important de mentionner quand on fait la liste de tout ce qui est fermé, tu sais, c'est sûr, on dit les restaurants, les théâtres, bon, toutes les salles de spectacle, les cinémas et tout ça. Moi, je trouve que c'est important de mentionner les musées sont ouverts. Fait que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, allez au musée. Dans toutes les régions au Québec, il y a des musées régionaux absolument extraordinaires. On a un réseau muséal absolument fabuleux au Québec. Profitons-en, c'est la seule activité culturelle qui est ouverte en ce moment. Alors, profitons-en avant que le gouvernement décide de fermer les musées.
Ah ouais.
Mais tu vois, récemment, je suis allée au Musée des Beaux-Arts à Montréal voir l'exposition Karch, le photographe canadien absolument extraordinaire, des photos de Winston Churchill, de Charlie Chaplin. C'est absolument magnifique. Donc, profitons-en parce qu'il fait trop froid pour aller dehors. Puis la seule chose qui est ouverte, c'est les musées. Donc, profitons-en pour aller dans les musées. Écoute, Marie-Claude, il nous reste un peu de temps. Tu voulais nous parler des camionneurs non vaccinés qui veulent foutre le bordel sur les routes. Toi, c'est une fin de non-recevoir.
Ben moi, j'ai pas envie d'être l'otage à quelque part entre les mesures sanitaires qu'on impose aux camionneurs. Et tu sais, j'ai pas élevé un prix entre le gouvernement et les camionneurs parce que il y aura une manifestation à Ottawa le 28 janvier où des camionneurs de partout à travers le Canada vont se rassembler. Au Québec, ils vont partir de trois endroits spécifiques. Et leurs mesures, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est partir vers Ottawa très, très, très lentement. Imagine un paquet de camions qui partent au même endroit très, très lentement pour faire en sorte qu'il y ait un chaos sur les routes.
Bravo, champion.
Pour mettre une pression sur le gouvernement, mais en se servant des automobilistes. Et moi, tu sais, je suis allée sur la page Facebook de Camionneurs du Québec, puis là, c'est là où on fait la promotion, évidemment, de l'événement. Et on dit, il y a des phrases comme « Un camionneur n'est pas un danger, il passe 95% de son temps dans son camion. Levez-vous pour votre liberté, pour la liberté du Québec et celle du Canada. » Je vais te dire, ça vient me chercher beaucoup parce que en plus, en plein hiver, on le sait, là, déjà, il y a des carambolages, il y a des accidents. Les routes, c'est compliqué pour présentement quelqu'un qui conduit une voiture. Et là, de faire en sorte qu'on va rajouter ça comme mesure de pression sur le gouvernement, moi, j'ai pas envie de ça. Alors, ils ont même fait une campagne de sociofinancement pour l'organisation. Écoute, ils ont déjà ramassé 480 000 $. Puis sûrement que c'est plus que ça, là, ça date d'hier. Et bon, on nous dit que la SQ surveille ça de près, qu'il pourrait y avoir des infractions au code de la route, au code criminel, mais évidemment, faut que ça ait lieu pour qu'ils donnent des amendes. Mais tu vois, ça, moi, ça vient me chercher. Je trouve qu'on n'a pas à subir cette pression-là comme automobiliste.
Mais tout ça parce qu'ils veulent pas être vaccinés. Je veux dire, j'aimerais ça que ces camionneurs-là, ils regardent le reportage d'Alain Laforêt hier au TVA avec au TVA 18h avec Pierre Bruneau, qui voit dans quel état se retrouvent. T'as les médecins qui disent la majorité des gens qui sont vraiment mal en point et qui souffrent, c'est des gens non vaccinés. Je veux dire, ça leur tente-tu de les camionneurs non vaccinés d'aller se faire intuber, d'être bourrés de médicaments, de je veux dire, c'est absolument épouvantable.
Parce que jusqu'à samedi dernier, ils étaient considérés comme des travailleurs essentiels, donc il y avait une exemption d'obligation. Maintenant, cette exemption-là est élevée. Donc, quand ils arrivent au Canada, quand ils reviennent,
ils sont obligés.
Ben, ils sont obligés, sinon, il faut qu'ils respectent une quarantaine. Et là, ça va s'appliquer aussi du côté américain. Donc, ils sont coincés. Donc, c'est pour ça là, qu'ils ont des mesures extrêmes. Puis, en même temps, le fait aussi que les Américains auront de la difficulté à passer ici, ben là, ça inquiète parce que l'approvisionnement, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil de transformation alimentaire du Québec, tu sais, s'inquiète. Il y en a plusieurs présentement. Qu'est-ce qu'il y aura sur nos tablettes? Mais bon, c'est pour se protéger toujours. Tu sais, il n'y a rien de ça qui est fait pour bloquer, pour freiner, pour empêcher les gens de vivre. C'est pour se donner une liberté pour s'assurer que notre système de santé aussi, quand on sera malade, sera encore là pour nous. Mais il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, tu sais, puis c'est ce côté rébellion, tout ça parce que c'est un virus. Je trouve que les gens prennent ça bien personnel. Ils veulent faire payer ça à tout le monde. Alors, j'espère
les camionneurs. Ouais, les camionneurs, c'est des spécialistes de la circulation. Ben, ils devraient être conscients que la circulation du virus est absolument épouvantable, donc ils devraient en prendre conscience. C'est vraiment des enfants gâtés parce que regarde, va te faire vacciner puis arrête de nous emmerder là. Je m'excuse là, mais je vais utiliser les termes du premier ministre français là. T'sais, il faut emmerder les non vaccinés. Puis les camionneurs non vaccinés, il faut les emmerder. Puis c'est pas à eux d'emmerder notre vie, c'est à nous d'emmerder leur vie. Marie-Claude, je veux dire, c'est moi aussi, je déteste être prise en otage. De faire du chantage comme ça, c'est absolument inacceptable.
Moi, je trouve qu'appliquer le mot liberté, là, c'est pas le bon mot présentement. Le convoi pour la liberté, là.
Ben là.
Écoute,
non, tu le prononces pas comme il faut. Le convoi pour la liberté.
Bon, bravo, tu l'as bien prononcé.
Je te taquine, bien sûr. Marie-Claude, à demain.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Chaque fois que le premier ministre François Legault parle de la loi 21, il parle de l'appui fort de la population du Québec pour cette loi sur la laïcité, la neutralité de l'État. Est-ce que cet appui à la loi 21 est en train de faiblir? C'est en tout cas ce que peut laisser entendre un sondage léger qui a été publié récemment, qui a été commandé par l'Association d'études canadiennes, qui montre en effet une légère baisse de l'appui à la loi 21. On va parler de tout ça avec Guillaume Rousseau, qui est professeur, directeur des programmes de droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Ce sondage léger montre une légère baisse et montre surtout qu'il y a une grande différence entre les anglophones et les francophones face à l'appui à la loi 21, une différence aussi de génération entre les plus vieux et les plus jeunes. Pourquoi vous pensez que ce sondage-là est publié maintenant?
Ben, je pense que c'est la personne qui l'a commandé, là, donc Jack Jewab, qui souhaitait, je pense, sonder les Québécois là, avec son association d'études canadiennes, qui souhaitait sonder les Québécois un peu après la controverse autour de cette enseignante de la commission scolaire Western Québec, là, qui avait dû quitter ses des tâches d'enseignement pour accomplir d'autres tâches dans l'école parce qu'elle souhaitait porter un signe religieux lorsqu'elle enseignait. Donc, souhaitant, je pense, un petit peu peut-être profiter de cette controverse-là, voir si ça pouvait avoir un impact sur l'opinion publique. Je pense que c'est pour cette raison-là que cette association-là, qui est opposée à la loi 21, c'est pas un secret pour personne et ça rend pas moins légitime son sondage, mais je pense que c'est ce qui explique là qu'il a été fait à ce moment-là.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sondage-là est publié et, évidemment, tout de suite après, je pense à quelqu'un comme, mettons, Francine Pelletier dans Le Devoir, qui écrit un long texte pour dire « Ah, 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 vous le voyez bien, finalement, les Québécois sont pas si en amour que ça avec la loi 21, donc la loi 21 est pas légitime. » C'était un peu prévisible que ça allait être récupéré, ce sondage-là, par les opposants, évidemment, à la loi 21, là. Mais pourtant, la loi a été votée, donc, je veux dire, on a bien beau dire qu'il y a, mettons, quelques pourcentages de moins, il reste que la loi est votée quand même.
Oui, puis l'autre chose qui est un petit peu ironique, c'est que souvent, les opposants à la loi 21, leur discours, c'était plutôt de dire... Ça n'a aucune importance, l'appui de l'opinion publique. Ce qui compte, c'est nos grands principes de liberté et tout. Mais là, oups, quand il y a un sondage, qui peut-être indique effectivement 1 ou 2 % ou un tout petit peu plus là, de mouvement d'aiguille au niveau dans la sens de leur thèse. Après, là, soudainement, les sondages deviennent intéressants et deviennent un critère pertinent pour la légitimité de la loi. Donc, bon, on peut prendre tout ça avec un grain de sel. Surtout que, bon, évidemment, l'association qui a commandé le sondage, qui est opposée à la loi 21, met de l'avant, effectivement, un tout petit mouvement là, d'appui, un petit peu moins d'appui pour la règle de l'interdiction du port de signes religieux, mais il y a plein d'autres choses dans ce sondage-là qui vont plutôt dans le sens de l'appui à la loi 21. Et je vous donne un exemple, c'est que au niveau de l'idée donc du juge Blanchard, donc qui a rendu son jugement l'année dernière, qui dit la loi devrait pas, plusieurs aspects de la loi, donc essentiellement l'interdiction du port de signes religieux par les enseignants, ainsi que l'obligation d'avoir le visage à découvert pour notamment pour les enseignants. Donc ça ne s'applique plus aux commissions scolaires anglophones. Donc c'est la partie là du jugement Blanchard là, qui est venu proposer de ne pas appliquer la loi dans une certaine mesure. Ben ça c'est rejeté massivement. Donc on a 70% des francophones qui rejettent ça. En fait 70% des francophones et 30% des anglophones qui rejettent l'idée de ne pas appliquer la règle de l'interdiction du port de signes religieux aux enseignants des commissions scolaires anglophones. Et là, imaginez l'appui maintenant à la règle du visage découvert. Le fait de ne pas appliquer la règle du visage découvert pour les enseignants dans les commissions scolaires. Donc là, les niveaux d'appui doivent être encore beaucoup plus élevés. Donc clairement, ce sondage-là, c'est un rejet massif de cet aspect du jugement du juge Blanchard là, qui est défavorable à la loi 21. Parce que rappelons-le, tout le reste du jugement confirme la validité de la loi 21.
Absolument. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être oublié les détails, il faut rappeler donc cette enseignante de troisième année, Fatema Anvari. Donc, elle a été engagée, c'est là que c'est important de le rappeler, elle a été engagée par la Commission scolaire Western Québec pour enseigner, alors que la commission savait qu'elle portait le hijab. Donc, déjà, à sa face même, quand elle a été engagée pour enseigner, c'était en contravention avec la loi 21. Donc, après, ils ont beau jeu de venir dire « Ah, ben là, on est obligé de l'affecter à d'autres tâches », tout ça sent un petit peu le coup monté quand même.
Ouais, ben c'est l'impression que j'ai eue au départ en parlant de coup de com, comme on dit communément. Surtout ensuite, l'enseignante qui, finalement, était quand même disponible pour certains médias. Donc, on voit qu'il y avait une démarche politique. Surtout les médias anglophones, je pense à qui elle a peut-être plus parlé, mais quand même, elle était disponible là, pour parler à des journalistes. Et ensuite, elle a dit elle-même que c'était pas tant religieux, mais que c'était politique, son geste. Alors, tout ça mis ensemble fait effectivement que on est plus de l'ordre là, du coup de com' politique que vraiment un cas où il y avait une personne qui avait d'abord des préoccupations en termes de carrière ou de pédagogie. Je pense qu'on n'est pas là.
J'aimerais ça qu'on parle de façon plus générale de l'impact de la loi 21, parce que on le savait quand cette loi-là a été votée, qu'elle donc interdisait le port de signes religieux, entre autres, chez les enseignants pendant leurs heures de travail. On se doutait bien qu'à un moment donné, elle allait être appliquée et que donc il y a des gens qui allaient être forcés de choisir entre leur signe religieux et leur travail. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont, quand l'histoire de Madame Fatema est sortie, de la façon dont ça a été utilisé de façon très émotive? Là, on a vu des dessins de petits-enfants qui l'avaient comme enseignante, qui ont dit « Ah, c'est très triste parce que nous, Madame Fatema, on l'aimait beaucoup. » Donc, on a évacué tout le côté rationnel, tout le côté légal, pour aller uniquement vers le côté émotif de la situation.
Oui, effectivement, je pense que vous décrivez bien le traitement médiatique de cette controverse. Puis bon, à la limite, je pense que dans un débat comme ça, il y a la place pour les arguments rationnels, notamment juridiques. Puis il peut y avoir une place pour des émotions qui sont légitimes. Je pense que l'important, c'est qu'il y a un équilibre là, de ces différents volets-là de la controverse. Et il y a peut-être équilibre ou pas. Peut-être qu'effectivement, dans ce cas-ci, il y avait un peu trop d'émotifs. Mais chose certaine, l'équilibre peut-être qui manque, c'est que souvent dans les médias, il y a eu, en tout cas dans ce cas-là, il y a eu beaucoup d'emphase accordée au cas de cette jeune enseignante. Par contre, toutes ces femmes, souvent d'ailleurs musulmanes, mais qui souhaitent pas porter de signes religieux et qui disent on veut la loi 21, on veut pas que nos jeunes filles soient soumises à des pressions pour porter des signes religieux, pour pratiquer leur religion de manière très rigoriste. Donc, ces femmes-là qui ont des histoires tout aussi touchantes que la dame de la commission scolaire de Western Québec, ben ça, on les entend moins. Puis là, on voit sur les réseaux sociaux en Amérique du Nord, il y a beaucoup de femmes, justement, qui s'expriment dans les derniers jours, qui disent « Laissez-nous parler, arrêtez de dire qu'on est islamophobe quand on critique certains aspects de la religion musulmane. » C'est des femmes qui appuient la loi 21, qui souhaitent s'exprimer. Alors, je trouve qu'on a mis beaucoup de focus sur cette dame de la commission scolaire Western Québec, mais beaucoup moins sur plein d'autres femmes qui représentent l'autre côté de la médaille, qui est au moins aussi important.
Oui, tout à fait. Vous faites référence donc à cette vague hein, sur les médias sociaux qui est partie d'ici, du Canada, et qui a eu des répercussions partout sur la planète. Donc, les gens utilisent le hashtag « Let us talk », « Laissez-nous parler ». Et c'est des femmes, donc, de culture arabo-musulmane qui, dans certains cas, dans leur pays d'origine, avaient été forcées à porter le hijab et qui disent à quel point ça a été un instrument d'oppression pour elles et à quel point c'est libérateur pour elles de ne plus le porter. Puis c'est drôle, parce que, à part ici, à Cube et dans le Journal de Montréal, ce mouvement-là, qui est pourtant rendu mondial, a eu très peu d'écho. C'est absolument incroyable de voir le silence des médias comme Le Devoir, comme La Presse, comme Radio-Canada, qui ne parlent pas de ce mouvement-là.
Effectivement, c'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler ce matin avec vous. Et donc, ça, c'est vraiment important. Puis d'autant plus que moi, dans ma pratique, j'ai pu, puis bon, nous, on a cherché des témoins, évidemment, pour venir témoigner en faveur de la loi 21. Et on avait ces témoignages-là. Donc, c'est pas si nouveau que ce soit comme ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est nouveau, puis ça justifierait effectivement que des médias ici en parlent beaucoup plus. Mais déjà au procès, nous, on avait plein de témoins qui faisaient exactement ça. Puis là, on parle de gens sous serment, qui sont contre-interrogés, souvent de manière très agressive par les avocats de l'autre côté, contre-interrogés par le juge. Donc, c'est clair là qu'elles étaient extrêmement crédibles et que leur histoire là, venait démontrer qu'il y en avait des pressions religieuses et qu'il y en a sur les jeunes filles et qu'il faut donc des écoles laïques où les enseignants et les personnes qui sont des modèles ne portent pas de signes religieux. Donc, tout ça avait été démontré de manière très, très évidente au procès. Et là non plus, ça n'avait pas eu beaucoup d'écho médiatique. Alors, on voit là qu'il y a comme une drôle de tendance des fois dans la couverture médiatique là, entourant la loi 21.
D'accord. La couverture médiatique aussi de ce fameux sondage-là, donc, qui a été publié dans Le Devoir et dans Le Soleil. Quand Jacques Gédouab, qui est le président de l'Association d'études canadiennes, dit quelque chose, il y a pas un journaliste pour aller fouiller un petit peu plus et remettre en question ce qu'il dit. Je vous donne un exemple, Monsieur Rousseau. Jacques Gédouab, donc, interrogé par Le Soleil quand les résultats du sondage ont été révélés, dit, j'ouvre les guillemets, quand on voit une personne portant le hijab ne plus pouvoir enseigner, je crois que cela a contribué à cette baisse d'appui. Fin de la citation. Il n'y a pas un journaliste au Soleil pour lui dire « Ben, c'est faux d'affirmer que la personne qui porte le hijab n'a plus le droit d'enseigner. C'est elle a tout à fait le droit d'enseigner. Il s'agit juste de 9h à 5h ou pendant ses heures de travail qu'elle enlève le voile. » Donc, comment se fait-il que les journalistes qui sont habituellement, dont le métier est de talonner les gens et de remettre en question leurs affirmations, qu'ils ne remettent pas en question l'affirmation de M. Gédouab?
Très bonne question. Donc, je pense que ça peut être en partie là, tout ce qu'on appelle le politiquement correct. Donc, dès que quelqu'un pourrait sembler peut-être un peu critique envers les religions ou envers certaines, ben là, tout de suite, on peut se faire qualifier sur les réseaux sociaux de toutes sortes de mots qui finissent en phobe. Donc, il y a peut-être un peu de ça. C'est probablement ça la principale explication là, pour cette timidité à remettre en question certaines affirmations. Puis surtout que ça revient continuellement. Là, comme en fond, on entend, la personne doit choisir entre ses croyances et son emploi d'enseignante. Alors qu'il ne s'agit pas de choisir ou pas les croyances. Là, c'est pas ça qui est en jeu. C'est le fait de porter un signe religieux dans l'exercice des fonctions, ce qui est évidemment bien différent de la croyance comme telle. Alors, c'est des affirmations comme ça là, qui peuvent avoir une apparence de vérité, mais qui sont en fait une mauvaise interprétation de la loi. Ça, c'est régulièrement pas remis en question. Puis effectivement, peut-être justement qu'à force de répéter ces mensonges-là, puis que c'est jamais, il y a peu de gens pour rétablir la vérité, ben c'est peut-être ça aussi qui, à la longue, finit par avoir un impact sur l'opinion publique. D'où l'importance de faire de la pédagogie autour de la loi 21 en expliquant la vérité des règles, c'est-à-dire l'interdiction du port de signes religieux pour certaines personnes dans l'exercice des fonctions, seulement dans les écoles publiques. Puis là, on peut faire toutes les nuances qui s'impose, puis c'est là qu'on voit que la loi finalement elle réserve un certain espace de libre expression religieuse dans les écoles privées pour des fonctions autres qu'enseignants, et oui, un espace où là il y a plus d'obligations de neutralité religieuse pour les enseignants, les directions d'école dans le cadre de leurs fonctions. Donc c'est une loi qui est équilibrée, mais ça, on a rarement, c'est les deux côtés de la médaille. On présente plus souvent qu'un et de manière parfois un petit peu erronée. Alors ça peut expliquer aussi les mouvements dans l'opinion publique.
Oui, puis quand vous dites de l'information erronée ou l'importance d'utiliser les bons mots pour en parler, j'espère que Justin Trudeau, notre premier ministre canadien, va vous entendre, parce que lui-même, quand il a été appelé au moment des faits à commenter le fait que Madame Fatema, donc, elle était retirée de ses fonctions d'enseignante et affectée à des tâches administratives, il a dit au Canada, personne ne devrait perdre son emploi à cause de ce qu'il porte, à cause des vêtements qu'il porte. Donc lui-même continue à véhiculer cette fausseté qu'elle avait perdu son emploi, ce qui est totalement pas vrai.
Effectivement, donc c'était sous-entendu. Donc, il faisait un lien entre l'histoire de Chelsea et le fait qu'il y aurait des pertes d'emploi. Donc on comprenait qu'il était en train de dire que l'enseignante de la commission scolaire Western Québec avait perdu son emploi. Effectivement, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'est plein d'exemples comme ça. Puis, continuellement, il y a des opposants à la loi 21. Ils jouent sur les mots comme ça. C'est pas tout à fait vrai ce qu'ils disent. Ils exagèrent toujours un peu. Et effectivement, donc, c'est un travail à chaque fois de les lire, de rappeler les faits, si possible, pour les journalistes qui sont là sur place, de challenger, par exemple, le premier ministre. Sinon, ça devient vraiment une fausseté qui, à force d'être répétée, devient presque une vérité. On sait en politique à quel point la perception est importante, pas seulement les faits. Alors, il y a beaucoup de travail de communication là, à continuer, de pédagogie à faire autour de la loi 21.
Parlez-moi des anglophones hors Québec qui s'opposent à la loi 21 et qui veulent même que leurs institutions, donc, financent l'opposition à la loi 21. C'est pas une bonne nouvelle.
Non, parce que au procès, il y a déjà un important déséquilibre des forces. Hein. Ils sont, je sais pas si j'ai arrêté de compter à un moment donné, il était rendu 10, 15, près de 20 groupes qui s'opposent à la loi 21. Puis là-dedans, il y a des commissions scolaires, il y a des syndicats, vraiment des gens. Il y a un organisme fédéral, donc vraiment des organismes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent là, pour se payer des avocats. Et du côté de ceux qui défendent la loi, bon, évidemment, il y a le gouvernement du Québec avec une équipe importante, mais pour les autres, les groupes comme mon client, le Mouvement laïque québécois, ou encore pour les droits des femmes, c'est des organismes à but non lucratif qui ont très peu de budget. Donc, il y a un important déséquilibre des forces. Donc, de l'autre côté, les opposants à la loi ont plus de rapports d'experts, ont plus de temps pour plaider, ils ont plus de ressources, ils ont plus de tout. Et là, on dit que le fédéral pourrait s'ajouter. On dit que certains des opposants pourraient recevoir du financement de la part de municipalités, donc pour avoir encore plus d'avocats, encore plus de temps à consacrer. Alors, le déséquilibre des forces risque de s'accentuer si ça va de l'avant. Mais là, il faudrait voir si c'est légal. Je suis pas sûr, moi, que ça rentre dans les compétences d'une municipalité D'accord. ontarienne de contester Oui. une loi québécoise. Et ça, il y a peut-être des gens qui vont contester. Là, ça va être à suivre dans les prochaines semaines.
Guillaume Rousseau, je rappelle que vous êtes professeur, directeur des programmes de droit et politique appliqués de l'État à l'Université de Sherbrooke. Et comme vous nous l'avez rappelé, vous étiez donc avocat pour le mouvement laïque dans cette défense de la loi 21. Merci d'être venu réfléchir avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Dominique Plamondon à la mise en onde et la réalisation. Merci à Julien Boutillier à la recherche et aussi à Florence Lamoureux. Merci à vous d'être là et ben, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain.
Cube Radio.